Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine. Notre émission aujourd'hui devrait s'intituler La bouteille tout à fait pleine. En effet, j'ai le privilège de recevoir Jacques Jeanneret, grand maître de l'Académie du CEP.
Bonjour
Jacques.
Bonjour.
Vous avez compris, une précision immédiate pour nos auditeurs, on a compris que c'était le cep de vigne et pas le cep champignon.
Évidemment.
Évidemment. Oui, on ne peut pas le savoir.
On ne peut pas deviner.
Il pourrait y avoir des grands maîtres de l'Académie des champignons.
Il pourrait y avoir.
Il y en a peut-être.
Pas à Genève.
Pas à Genève.
Mais je pense dans certaines régions de France, certainement.
Mon cher Jacques, vous êtes né et vous avez été élevé où?
Alors, je suis né pendant les vacances de mes parents. Ils habitaient Genève, mais ils étaient en vacances chez mes grands-parents dans le canton de Fribourg. Donc, je suis né à Estavayer-le-Lac. C'est sympa de naître pendant les vacances de ses parents. C'est peut-être mon petit côté flemmard vient de là, je ne sais pas. Mais j'ai toujours vécu à Genève. Mon père était employé des douanes, donc j'ai eu la chance de parce que tous les 4-5 ans, on changeait de lieu. Je suis né à Chancy, enfin j'ai mes premières années à Chancy, puis Verrier, puis Bardonnay. Donc j'ai la chance de connaître les quatre coins du canton, ce qui est assez sympa.
Très sympa, mais bien sûr très sympa. Et alors, vous avez été élevé dans une famille amateur de vin?
Pas plus que ça. Mon père avait bien son petit coup de vin, mais pas plus que ça. Non, pas plus que ça au départ.
Mon cher Jacques, il y a une question rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous?
Quel petit garçon. J'étais très chahuteur en classe.
Oui.
Très chahuteur en classe. Très bavard, babillage, etc. J'essayais toujours de faire en sorte que ma mère ne voit pas le cahier de devoirs pour éviter de faire les devoirs.
Ah oui.
Donc, mais comme j'étais pas trop mauvais à l'école, j'arrivais à m'en sortir sans que la moitié du temps mes devoirs. Mais par contre, dès mon jeune âge, j'étais intéressé par les questions de sport. Le sport est un des volets, une des composantes de ma vie. Donc,
quel sport?
D'abord le football, puis ensuite la course à pied, l'athlétisme.
L'athlétisme. Voilà. Et vous courez toujours, je crois, d'ailleurs.
Hein? Alors, je depuis 4-5 ans, malheureusement, au bout de 85 000 km,
le corps... 85 000 km, qu'est-ce que j'entends?
Oui, oui, de 14 à 55 ans, j'ai fait 80 000 km de course à pied.
Ah oui, c'est incroyable, ça.
Alors, j'ai passé au vélo, maintenant, je fais au vélo. Le sport est une composante de ma vie, j'en fais par plaisir. Puis avec les années, j'en fais aussi, ça me permet de maintenir la ligne.
Oui, surtout en buvant quand même.
Oui, surtout.
On n'est pas grand maître de l'Académie du CEP sans toucher au vin.
C'est ça.
Au bon vin. Alors, vous pouvez tout avouer pendant cette émission.
D'accord.
Parce que je vous l'ai dit hors antenne, mais moi personnellement, dans mon biberon, j'ai eu de la vieille prune du Périgord. Parce que ma mère périgourdine pensait que les enfants, il fallait les calmer, il ne fallait pas les laisser hurler, c'était très mauvais.
Mais alors, pour répondre plus précisément à votre question tout à l'heure, non, je ne suis pas né dans une famille où le vin était une tradition familiale plus que ça. Puisqu'au fond, et ça se lie avec les questions de sport dont je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'au fond, je n'ai bu mon premier verre de vin qu'à 23 ans.
Ah oui.
Parce que jusqu'à 21-22 ans, j'étais quand même dans les 8-10 meilleurs Suisses sur 1500 mètres et 3000 mètres steeples. Et donc,
ça allait mal ensemble de boire. Oui.
Je me rappelle de l'école de recrue, de l'armée, 4 mois, où je voyais les gars boire des coups de gnôle, il y avait des Jurassiens et des Valaisans, ça tapait. Hein. Moi, j'ai bu ma première goutte d'alcool, j'avais 23 ans.
En raison du sport, alors.
Oui. Alors les mauvais angles se disent, oui, mais tu t'es bien rattrapé. C'est vrai.
En effet. Eh bien, voyez-vous, moi, j'ai eu mon premier doigt de vin à 5 ans, mon cher Jacques. C'était à l'époque, en fait, tout à fait normal, tout à fait dans la norme, en tout cas en France,
oui.
De donner du vin aux enfants. Puisque vous savez, il y a eu, lorsque M. Mendès France a décidé, je crois que c'était en 1956, de faire boire du lait aux enfants dans les écoles, il y a eu une levée de boucliers des députés du Sud-Ouest qui pensait que c'est parce que M. Mendès France était député de Normandie qu'il favorisait ses électeurs. Parce que les enfants, à l'époque, enfin dans le peuple, les enfants allaient avec une nénette de vin et,
ouais,
et buvaient ça pendant la matinée pour se donner du courage à mon époque. Moi, je ne trouvais pas ça extraordinaire. Hein. Enfin, vous voyez, on a survécu.
Oui.
On a survécu et plutôt en bonne forme.
Bien sûr.
Voilà. Alors, mon cher Jacques, vous avez eu de nombreuses casquettes. Je ne sais même pas par laquelle commencer. Alors, en attendant de reprendre mon souffle pour parler des casquettes, je vais vous demander de nous annoncer la musique que vous avez choisie.
Alors, on va commencer par... c'est un de mes musiques préférées, vraiment, c'est The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. J'ai eu en plus la chance de les voir en spectacle au Stade Saint-Jacques à Bâle il y a 40 ans peut-être. Mais c'est toujours un duo que j'ai toujours beaucoup apprécié. Voilà, donc c'est une de mes chansons préférées.
On l'écoute ensemble.
D'accord, volontiers.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine dont j'ai dit tout à l'heure qu'avec le grand maître de l'Académie du CEP, Jacques Jeanneras, nous devrions aujourd'hui l'intituler « La bouteille à tout à fait pleine » et non pas à moitié pleine. Alors mon cher Jacques, vous avez de multiples casquettes. J'ai essayé de les lister mais ça donne le vertige. Alors, quelle est celle dont vous avez envie de nous parler en premier ?
Écoutez, je crois que si on aimerait résumer, il y en a deux qui sont liés à l'actualité et au passé très récent. Ben, l'actualité, c'est cet engagement au sein de l'Académie du CEP, qui est une confrérie bachique. Hein,
ça, on va en parler tout voilà. à l'heure. Mais et là, puis, je parlais plutôt...
Professionnellement, oui. Bon, moi, j'ai quand même été 17 ans à la direction générale de la Chambre de commerce.
Voilà.
Ça, c'est un passage de ma vie qui est important. Mais j'ai également été journaliste au Journal de Genève. J'ai également été secrétaire général pendant 7 ans des Scouts de Genève. J'ai travaillé à Économie Suisse, j'ai une formation de technicien en médecine nucléaire, donc j'ai travaillé dans le milieu hospitalier.
Mais comment vous avez fait ça alors? Parce qu'on ne sait pas quelles ont été vos études, on a loupé ce passage-là.
Eh bien, j'ai fait une maturité au Collège Rousseau, et ensuite j'ai fait une école de technicien en radiologie médicale avec une spécialisation en médecine nucléaire. Je travaille dans 3 hôpitaux, au CHUV à Lausanne, à Bienne, pendant une année, et ensuite de retour à Genève. Et puis après, ben, j'étais engagé comme bénévole dans le scoutisme et le poste général était vacant et puis plusieurs personnes ont voulu que je prenne ce job. Et j'ai fait ce job pendant 7 ans. J'ai fait du scoutisme de façon professionnelle pendant 7 ans.
Alors ça consiste en quoi le scoutisme de façon professionnelle ?
C'est l'encadrement des jeunes qui sont responsables de différents groupes qu'il y a dans le canton. C'est organiser les stages de formation, les semaines de formation. C'est les relations publiques. C'est s'assurer que les groupes puissent avoir des subventions qui viennent de l'État ou de la ville. C'est veiller à ce qu'ils aient des locaux qui puissent accueillir les jeunes. Donc c'était un boulot, beaucoup de relations avec le monde politique, le monde média, avec etc. Donc ça, c'était passionnant.
Est-ce que vous avez, à ce moment-là, décidé de rentrer en politique? Parce que vous êtes rentré en politique.
Alors, je suis rentré en politique, en fait, effectivement. Je m'étais engagé dans cette association de jeunesse pendant, j'ai dit, je fais maximum 7 ans. Et puis, bon,
à un moment... Pourquoi 7 ans?
Parce que je trouvais que le chiffre était magique. Ah. Et puis, comme c'est un mouvement de jeunesse, je voulais pas y faire de trop vieux os. Je pensais qu'il fallait laisser la place à quelqu'un de plus jeune. Donc j'avais donné mon congé une année avant les fameuses 7 ans fatidiques. Et puis après, mon job suivant, c'était secrétaire général du Parti radical genevois. Donc je suis entré en politique par la fonction de secrétaire général du Parti radical. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour des associations économiques qui étaient en lien avec la politique, avant d'entrer au Grand Conseil en 2001.
Et le MCEI?
Alors le MCEI... l'USAP, Union Suisse Attachée de Presse, donc ça c'est des organismes dans lesquels j'ai été, ou je suis encore pour certaines, donc ce sont
Vous êtes dans lesquels encore maintenant?
Je suis encore à l'Union Suisse Attachée de Presse, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Le MCEI, j'ai fait un petit pas en arrière, on peut pas tout faire tout le temps, il y a des moments où on a des passages dans la vie, où on est membre d'une structure ou pas. Je donne un exemple, j'étais pendant... plus de 15 ans, même plus, je crois, 17 ou 18 ans, membre du Rotary Club. Puis à un moment, j'ai fait le tour, voilà.
Plus envie. Mais c'est incroyable le nombre de casquettes. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptées, mais il y en a une quinzaine ou 18, je ne sais pas. Alors, vous avez été aussi membre du conseil de fondation et du conseil de direction de l'OPI.
Oui, ça, c'était lié... à ma fonction de directeur général de la Chambre de commerce, l'OPI, l'Office pour la promotion industrielle, qui est une structure, qui est une fondation, mais qui est de droit public, donc qui est soutenue par l'État, mais qui est là pour soutenir le monde industriel à Genève. Il faut savoir qu'à Genève, on a mis en place, il y a déjà bien quelques années, des éléments pour... faire en sorte qu'on cultive un certain savoir-faire dans le monde de l'industrie. On a mis en place justement l'OPI, l'Office pour la promotion de l'industrie, mais également la FTI, la Fondation pour les terres industrielles, comme le territoire est exigu, de façon à ce qu'on puisse garantir des mètres carrés à disposition du monde industriel, mais aussi à des prix abordable, de façon à ce que d'autres lieux sur la planète puissent produire les mêmes produits, mais de façon moins chère, parce que le prix du mètre carré de location étant beaucoup, beaucoup plus bas. Donc on a réussi à mettre en place tout ça il y a plus de 30 ans maintenant, et ce sont deux organismes, la FTI et l'OPI, qui sont très très utiles à l'économie genevoise.
Alors quelque chose de beaucoup plus folklorique et qui parle à notre cœur, vous êtes membre de la Société des Vieux Grenadiers de Genève.
Ah oui, ça doit bien faire 25 ans, oui. La société du Grenadier, c'est particulier. Les gens qui ne la connaissent pas, cette société, pensent que c'est un peu poussiéreux, que c'est un nid de vieux radicaux, etc. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas que des radicaux. La preuve à des grands piliers, c'est mon ami Robert Kramer, qui est vert.
Qui est très vert, Robert.
Alors c'est vrai que c'est une structure particulière, en ce sens que il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Elle possède un restaurant.
Et sinon, ce serait des cantonnières.
Ouais. Elle possède un restaurant à la rue de Carouge, qui est un restaurant public, sauf le jeudi soir. Le jeudi soir, cet endroit est réservé aux membres. Et puis, il y a plusieurs structures, plusieurs sections dans cette société des vœux grenadiers. Ça vous étonnera pas.
Ça me passionne, vous le savez.
Je suis membre de la section du Clos Végé. Nous avons 14 pieds de vigne plantés à la rue de Carouge.
Ah oui.
Le saviez-vous?
Non, pas du tout. Et je suis sûr que mes...
Et on y fait chaque fois la taille et les vendanges, prétexte à faire un grand apéro. En général, l'apéro dure plus longtemps que la taille et la vendange. J'avais 14 pieds. On n'en a pas pour longtemps. Mais c'est un endroit très sympa. La devise, c'est famille, patrie, amitié. Il y a donc ce respect des valeurs familiales. Et il y a la notion de la patrie. Ça, c'est lié au vieux grenadier en tant que tel. Et puis, cette notion d'amitié qui est assez forte.
Alors, les vieux grenadiers, je les ai vus récemment lors de la venue à Genève du général Puga, que nous avons d'ailleurs eu à cette antenne, et qui est le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur. Voilà. Et puis, à l'époque où j'avais l'honneur et la joie de diriger la foire de Genève, remplacée par les autumnales, les vieux grenadiers étaient très là présent. Lors de l'inauguration.
Oui, toujours.
C'était très spectaculaire.
Bien sûr.
Ils sont magnifiques, les vieux grenadiers.
Tout à fait, tout à fait.
Et puis, il y a aussi membre de l'Union Genevoise des partenaires de la sécurité UGPS.
Alors,
vous voyez que j'ai bien étudié votre cas.
Alors, si vous voulez, moi, j'étais actif dans la sécurité au travers d'un groupe de scouts aînés qu'on avait intitulé le groupe scout d'intervention en cas de catastrophe. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, notamment en Italie, les scouts font partie de la protection civile. Quand il y a des inondations, il y a une branche des scouts, ils sont reconnus par le ministère à Rome, et nous sommes souvent venus en appui des scouts italiens quand il y a eu le fameux tremblement de terre au Frioul, avec un de mes amis qui était helvético-italien ici, monsieur Edgardo Amato. Et puis, cette section des scouts est devenue membre du Forum Genevois de Sécurité. Et puis un jour, ils ont dit, j'étais député au Grand Conseil, j'avais quelques éléments de réseau, et on m'a dit, oh, ça serait bien que tu puisses présider cette structure-là. Ça regroupe les Samaritains, les pompiers, les services du feu, les sauveteurs du lac, les chiens en cas de catastrophe, etc. Donc c'est une plateforme où les gens échangent sur les questions de sécurité. C'est marrant qu'il y a des gens à Genève qui sont passionnés par la question de sécurité. Je suis génial. Alors j'ai été président pendant 5 ou 6 ans de ces structures. Voilà, c'était très sympa. Des gens très différents, mais très sympas.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Jacques ?
Alors maintenant, on va écouter une chanson qui est liée un peu à l'actualité, par rapport à cette agression russe en Ukraine. Et c'est cette chanson de Michel Sardou, Vladimir Ilitch. On pourrait remplacer le mot Vladimir Ilitch par Poutine, parce que les paroles sont assez... Elles collent bien à la réalité, voilà. À l'actualité, plutôt.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins, des bords de la Volga au delta du Niémen. Le temps s'est écoulé, il a passé pour rien, puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous. Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard? Rien n'a changé, les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés. Oh toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répand la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille dont j'ai déjà dit plusieurs fois qu'aujourd'hui elle devrait être tout à fait pleine, puisque nous avons la joie d'accueillir Jacques Jeanneret, grand maître de l'Académie du CEP, dont j'ai bien précisé aussi que c'était le CEP de Vigne. Mon cher Jacques, on vient de voir la liste incroyable de casquettes que vous avez. C'est inimaginable que ça repose tout ça sur le même homme, qui en plus a fait du sport. Vous avez dit à un moment, j'ai plein d'autres centres d'intérêt. Nous allons venir maintenant à cette Académie du CEP, dont vous êtes membre depuis combien de temps?
D'abord, elle a été créée en 1953, cette confrérie bachique. Moi, je suis membre depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Et j'en assure la présidence, puisque ce titre de grand maître, c'est président, depuis 6 ans.
Alors, elle réunit 300 membres, hein, je crois.
Le site internet n'est pas à jour. Ah. Le dernier fichier, nous montre 514 membres.
514 membres, oui. Ça c'est remarquable.
Donc, ça veut dire que nous avons eu...
On a recruté.
Entre ces 4 dernières années, on a recruté environ 200 nouveaux membres.
Je dis « on », puisque j'ai la chance et l'honneur de faire partie de vos membres.
Mais alors, ce qui est magique, c'est qu'on n'a aucun effort de recrutement. Les gens viennent spontanément. Les adhésions deviennent spontanées.
Alors, c'est fait pour célébrer le vin dans un esprit d'amitié et de convivialité. C'est formidable.
Exactement. Il y a on poursuit 2 buts. Le premier, c'est de cultiver l'art de la dégustation. Par différentes activités. Et le deuxième, c'est de contribuer à la promotion des produits du terroir en général, et ceux de Genève en particulier.
Alors, racontez-nous comment, pour nos auditeurs, puisque moi j'ai la chance de le savoir, mais racontez comment ça se passe, ces rencontres organisées périodiquement par l'Académie.
Eh bien, nous avons deux chapitres par an. Nous avons eu un samedi dernier, à 9 avril, à Pessy, c'est le chapitre de printemps. Il faut savoir que les gens, pour rentrer dans la confrérie, ils doivent être parrainés par deux personnes. Et puis, c'est pendant ces chapitres, ce qu'on appelle l'intronisation des nouveaux membres. On présente la personne en quelques secondes. On lui remet sa médaille. Alors c'est à
on
la fois.
On a un très beau ruban vert.
Alors à la fois ça repose sur des petits éléments liés à la tradition, un peu le côté chevalier, etc. Les grandes tenues, grande robe bordeaux. Mais à la fois, on se prend surtout pas au sérieux, donc on s'appuie sur l'humour pour présenter les gens. Nous avions donc samedi 24 nouveaux membres qui ont adhéré. Parmi eux, quelques membres d'honneur. Nous avons par exemple intronisé le recteur de l'Université de Genève, Monsieur Yves Luquiguière. Nous avons pensé que c'était un croisement de deux académies, celle du monde universitaire et l'Académie du CEP de Genève. Et d'ailleurs, toute la présentation qu'on a fait sur lui tournait là autour. Et son discours comme membre d'honneur pendant le banquet tournait également là autour.
L'année dernière, vous avez intronisé aussi le président de la Confédération.
Nous avons eu pour le chapitre de Russin, au mois de septembre, le président de la Confédération, qui était très, très heureux, qui a passé plus de 5 heures avec nous, qui nous a fait un discours aussi plein d'humour. Et dans cette confrérie, l'autre activité principale, je disais tout à l'heure que c'est cultiver la dégustation, donc on a des concours de dégustation où on doit reconnaître les cépages. Le prochain aura lieu le 9 juillet à la cave de Genève. On a 5 vins blancs, 5 vins rouges, il faut retrouver les cépages. Au début, les premières fois, on fait 0 point, 1 point, 0 point, 1 point, puis on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Puis au bout de moi, ça vient, c'est une question de mémoire, d'habitude, d'entraînement à la dégustation. Je dis bien déguster, hein, donc apprécier les choses. Et au bout d'un moment, chaque fois qu'on reconnaît 5 vins, au départ, on a un grade supplémentaire. Puis après, plus les grades montent, il faut 3 fois 5 sur 5 pour prendre du galon en plus. Donc c'est une sorte de petit jeu.
Alors est-ce que le galon se voit sur le costume?
Alors il se voit en sens que quand on est intronisé, tout le monde a la même médaille. Mais quand on a intronisé compagnon, le ruban, il est aux couleurs genevoises, jaune et rouge. Et ensuite, en fonction des grades, il est bleu pour les compagnons bons dégustateurs, vert pour les écuyers, rouge pour les chevaliers. Et ensuite, les maîtres chevaliers ont des grappes dorées qu'ils peuvent mettre sur le cordon en fonction de la
J'ai
quantité.
J'ai un très beau ruban vert.
Parce que vous êtes écuyer, voilà.
J'étais très fier ce jour-là.
Bravo, je vous félicite.
Alors, vous allez donc à la rencontre des viticulteurs du canton.
Oui.
Alors, pour eux, ça se passe comment ce jour-là?
Par exemple, ce chapitre qu'on a eu samedi, on choisit un domaine. La condition, c'est que bien sûr qu'il ait la capacité de nous recevoir. Nous étions 168 personnes au Clos du Château à Chouilly. Le Clos du Château a une immense salle dans la pièce qui fait plus de 200 mètres carrés, ce qui fait qu'on peut recevoir les gens. Malheureusement, pas tous les vignerons ont cette possibilité-là. Donc on fait ces chapitres chez les vignerons. Nous avions une petite dizaine de vignerons qui étaient présents. Et nous avons servi que des vins de Chouilly puisqu'on était à Chouilly. Ça veut dire que les 5 plats qui ont été présentés au banquet étaient accompagnés chaque fois d'un vin différent. Et le vigneron doit être là pour présenter son vin. Au moment de la première entrée, on sert le premier vin, on interview le premier vigneron. Deuxième plat, etc., etc. Donc il y avait 5 plats, donc 5 vins différents. Et chaque fois, le vin est présenté par les vignerons. Et ensuite, sur le menu qui se trouve sur les tables, il y a un descriptif sur 3 lignes de chacun des vins. Ce qui fait que les gens peuvent repartir avec un petit document sur ce qui est la caractéristique du vin. Ce qui laisse une trace. Ils peuvent revenir en acheter ou pas revenir en acheter s'ils l'ont
beaucoup aimé. Mais oui.
L'idée, c'est vraiment à la fois d'aider les gens à découvrir les vins. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont découvert et apprécié certains vins, ils peuvent les acheter ou venir déguster chez le vigneron.
On va de nouveau écouter de la musique, mon cher Jacques. Et là, c'est joli, c'est une très jolie chanson.
Ah oui, Francis Cabrel, à l'encre de tes yeux. Francis Cabrel, c'est un grand poète, c'est un grand artiste. J'aime beaucoup.
Alors on l'écoute ensemble.
D'accord, volontiers.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
On ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Malgré ça, j'arrive à t'oublier. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. M'aura longtemps le parfum des regrets. Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille, non pas à moitié pleine aujourd'hui, mais totalement pleine, tout à fait pleine, avec Jacques Jeanneret, le grand maître de l'Académie du CEP. Alors mon cher Jacques, on a vu qu'on était très actif à l'Académie du CEP, mais quelles sont vos relations avec les autres confréries bachiques en Europe ?
Alors, nous avons de très bons contacts avec les confréries en Suisse romande, qui sont regroupées sous le nom de la Fédération Suisse des confréries bachiques et gastronomiques, puisqu'il y a aussi des confréries gastronomiques, comme par exemple celle du Gruyère. Moi, à titre personnel, j'ai très très bon contact avec l'ordre de la Channe en Valais, le procureur, qui est mon collègue, d'ailleurs était présent samedi, il est membre d'honneur chez nous, et moi je suis membre d'honneur chez eux. Donc on a de très bons contacts. Bien sûr que il y a une fédération internationale dont le siège est à Paris. J'en suis d'ailleurs le vice-président pour la Suisse. Et je suis membre de 4 ou 5 confréries en France, notamment...
Lesquelles ?
Eh bien, la confrérie des vignerons de Saint-Vincent à Mâcon. Je suis membre des gouttes-vins de l'enclave des Papes. Je suis également membre de la confrérie des échansons dans la région parisienne. Et alors, je suis membre, ça ne s'invente pas, de la confrérie de la Légion étrangère.
Ah oui ?
Il existe une confrérie de la Légion étrangère, il y a un officier de la Légion qui n'avait pas de descendants, mais qui avait un grand domaine dans le sud de la France, et qui au fond a cédé ce domaine à une fondation qui s'occupait des veuves et des orphelins de la Légion étrangère, qui s'appelait Capitaine d'Anjou. Et ce domaine a créé une confrérie. Elle a eu une fois un chapitre ici à Genève, à l'école hôtelière. Et mon ami Alain Brunier m'a dit « Ah, il faut que tu viennes !» Et puis j'étais intronisé à cette confrérie. Donc il y a une relation entre les confréries qui est assez sympa. Ce que je dois dire, et j'en parlais encore avec mon collègue de l'ordre de la Channe Valaisanne l'autre jour, les gens sont surpris. Nous avons une caractéristique à Genève. Nous avons beaucoup de jeunes qui adhèrent. J'étais à Paris il y a 2 mois, à l'Assemblée de la Fédération mondiale, Et la confrérie de la lande de Pomerol n'a plus d'activité depuis 3 ans. Moyenne d'âge, 75 ans.
Ça, c'est trop triste, parce que les Pomerol sont des vins merveilleux.
Ils n'arrivent pas à faire adhérer les jeunes. Moi, j'ai eu la chance, il y a 4 ou 5 ans, d'avoir un groupe de jeunes de 25 ou 30 ans qui sont venus. Et maintenant, ils y amènent leurs copains. Et là, sur les 24 qu'on a intronisés samedi, un tiers avait moins de 30 ans.
Jacques, c'est pas dû au fait que vous avez encadré des mouvements de jeunesse ?
Oui, peut-être. Écoutez, oui, c'est possible.
Si,
oui.
C'est possible. Hein. C'est possible parce qu'il y a une gaieté dans tout ça.
Oui. Bon, moi, j'ai un petit côté rassembleur. Je suis sûr que si vous interviewez des copains à moi, comme notre ami Michel Baumann, par exemple, il va dire, ouais, partout, Jacques, il passe, il rameute les gens. Les 7 ans où j'étais secrétaire général des scouts de Genève, j'ai fait passer le nombre de scouts de 1200 à 2000 en 7 ans. J'étais 17 ans directeur de la chambre de commerce, j'ai fait passer le nombre de membres de 1300 à 2500. Ça fait 6 ans que je suis le grand maître de l'académie, on a passé de 300 membres à 500 membres. Probablement que c'est l'enthousiasme que j'y mets, voilà.
Bon. Devrez vous recruter, là, en Pomerol. Parce que ce sont des vins merveilleux.
Oui, c'est des vins merveilleux. Mmh. Et cette petite dame que je connais, parce que je la vois chaque année à l'Assemblée à Paris, elle est toute triste. Alors, je lui ai dit qu'on allait débarquer avec un groupe de jeunes une fois et lui relancer sa
confrérie. Moi, je veux bien venir, là, parce que j'avais un très grand...
Je vous tiens en courant, si on
peut. Oui, parce que j'avais un très grand ami qui était propriétaire de La Conseillante. Voilà. Et qui nous faisait faire des dégustations horizontales de Pomerol.
Ah ouais, ça, c'est magnifique.
Et ça, c'était magnifique. Ouais. Enfin, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons genevois. Et je voudrais parler de ces vins qui, il y a 25 ans, 30 ans, n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces vins deviennent aussi bons ?
Alors, ce qui s'est passé... D'abord, il y a depuis très longtemps des vignes à Genève, n'est-ce pas ?
On sait depuis combien de temps, à l'époque romaine, déjà ?
Les premières tables. On a des traces à l'époque romaine, mais on a de chez certains vignerons des documents ou des choses qui attestent que vers l'an 950, notamment dans la région de Pessy, on produisait déjà des vins à certaines quantités. Il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, la qualité des vins genevois était très mauvaise. On s'appelle la quille de Perlan. D'ailleurs, le mot Perlan, plus personne n'ose l'utiliser. Alors que je trouve qu'il est joli. À l'oreille, c'est sympa.
Oui.
Et au fond, il y a une trentaine d'années, on avait quand même des très bons vins en Suisse, des vins vaudois, des vins valaisans, qui avaient une tradition, puis qui avaient su les travailler de façon qualitative. Et puis, il y a 30 ans, aussi, il y avait déjà des vins qui étaient importés. Et au fond, le vin genevois n'était pas bon. Donc, il y avait deux solutions. Soit on arrachait la vigne pour faire autre chose, soit on travaillait sur la qualité.
Ça aurait été bien triste, ça.
Ça aurait été bien triste. Et au fond, les gens ont décidé de travailler sur la qualité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont pris les deux cépages historiques pour travailler sur la qualité. Le Chasselas et le Gamay. Et d'ailleurs, le Chasselas a tellement été amélioré qu'au fond, c'est devenu un vin magnifique, qui est une référence. Et d'ailleurs, c'est encore le cépage le plus produit à Genève. Ensuite, il y a eu des spécialités qui ont été travaillées, soit des cépages qui étaient plus dans la sud de l'Europe, comme le Viognier, comme le Cabernet Sauvignon, qu'on s'est mis à planter ici à Genève. Et puis depuis quelques années aussi, le centre Agroscope dans le canton de Vaud, avec plusieurs vignerons, a travaillé sur des nouveaux cépages qui sont notamment plus résistants à la maladie sans qu'il y ait besoin de produits. Ce sont des cépages qui ont été biologiquement fabriqués. C'est notamment le Gamaret, le Gara Noir, plus récemment le Divico. Et il y en a un tout nouveau qui commence à être commercialisé aussi en vin blanc, c'est le Divona. Ce sont des vins qui ont besoin d'à peu près 4 ou 5 fois moins de produits
phytosanitaires,
ce qui correspond à l'ère du temps, à ce que les consommateurs recherchent.
Veulent du bio.
Voilà. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait par les vignerons sur l'ensemble de la Suisse romande, en général, mais à Genève en particulier.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Jacques ?
Alors, moi, je suis très vieux rock'n'roll. Hein. C'est Chuck Berry et O'Carroll.
On y va.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
so long a ride. You park your car out in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank her, ma'am. Every time you make the scene, you find the joint is jammed.
Sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, la bouteille tout à fait pleine aujourd'hui, vous le savez maintenant, avec Jacques Jeanneret, le grand maître de l'Académie du CEP, C-E-P, on l'a précisé aussi. Alors Jacques, je vais maintenant vous donner une rude tâche, c'est de nous parler des différents cépages de Genève, des différents vins, et comment vous voyez les choses, et comment vous voyez l'avenir. C'est un passage important pour nous, parce que je ne vois que progrès, personnellement. Vous savez que j'aime beaucoup le vin, j'appartiens à votre académie, mais j'appartiens aussi à la chaîne Valaisanne. J'aime beaucoup le vin et je fais souvent une blague à mes amis français qui sont assez, comme vous le savez, assez hautains et assez orgueilleux et toujours pensant que les Français sont mieux qu'ailleurs. Je leur mets souvent un vin suisse et souvent genevois dans des carafes bordelaises, avec le bouchon en travers, comme on fait à Bordeaux, et je leur demande de goûter. Et en général, j'ai droit à « mais pas mal du tout ce petit Bordeaux, ça vient d'où ?» Et là, je ris, je me lève, je vais chercher les bouteilles vides.
Absolument.
Voilà.
Non, mais l'évolution, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je dirais que les cépages de base que nous avons à Genève historiquement, en blanc, c'est le Chasselas et le Chardonnay. En noir, en rouge, c'est le Pinot Noir et le Gamay. Et puis, comme je le disais, il y a des cépages qui sont remontés, qui ont remonté le Rhône, comme le Viognier, par exemple, qui avec le c'est vrai que l'évolution climatique a bien trouvé sa place ici à Genève, mais aussi des cépages qu'on trouve dans le Bordelais, le Cabernet Franc ou le Cabernet Sauvignon. Et puis il y a ces nouveaux cépages, Gamaret, Gara Noir, Divona en rouge. Divona, c'est du blanc, pardon. Et donc, ce sont des cépages qui ont été fabriqués ici. Une des caractéristiques de cette région, c'est qu'on est vraiment en multicépage. Si on compare à la France, par exemple. En France, la Bourgogne et le Beaujolais, c'est monocépage. Pour utiliser le mot Bourgogne, en blanc, il faut que ça soit du Chardonnay.
Exactement.
Pour utiliser l'appellation Beaujolais en rouge, il faut que ça soit du Gamay, etc. Ce qui n'est pas le cas de la région de Châteauneuf-du-Pape, puisqu'on peut avoir dans un Châteauneuf-du-Pape jusqu'à 14 cépages différents. Dans la région de Bordeaux aussi, On a énormément de cépages avec des assemblages. Donc on a fait aussi un développement de ces assemblages à Genève. Il y a des vins absolument magnifiques. Et d'ailleurs, les vignerons genevois ont créé, il y a une petite dizaine d'années, un vin qui se voulait être l'ambassadeur des vins de Genève, notamment dans la partie alémanique du pays. Et ils ont créé une commission autour d'un vin qui s'appelle l'Esprit de Genève. Il y a une charte. Il doit y avoir 50% de gamay. Il doit y avoir du gamaret. Le reste, on peut mettre ce qu'on veut. Il y a une commission. Et ils doivent, à l'aveugle, admettre si ce vin a des caractéristiques dans l'esprit de Genève. Il a un tel succès qu'au fond, il a manqué la cible. On ne le boit pas à Zurich, on le boit à Genève.
C'est ça.
Il est magnifique. Il est magnifique. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que l'étiquette est la même pour tous. Et il y a la contre-étiquette où on explique le pourcentage de l'assemblage et le producteur qui l'a produit. Et c'est très intéressant. Nous avons fait à la Cannes du Cep une dégustation avec une fois une douzaine d'esprits de Genève différents, où c'est absolument magnifique, c'est absolument merveilleux. Donc cette notion de l'assemblage, on le fait comme on le fait à Bordeaux ou comme on le fait dans la région de Châteauneuf-du-Pape, mais on continue à faire des monocépages, comme on le fait en Bourgogne ou dans le Beaujolais. Et il y a d'autres cépages qui ont été bien implantés à Genève. Le Merlot, par exemple, qui a été amené par Jean-Charles Crouzat, domaine des Trois Étoiles. Je vous défie à l'aveugle, je vous mets deux Merlots genevois et cinq Merlots tessinois, et vous devez sortir les cinq tessinois et les deux genevois, et bien vous serez très surpris. Les Merlots genevois se défendent très, 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 très bien. On a une terre à Merlot, on ne le savait pas, mais on a une terre à Merlot qui va très bien. À l'inverse, il y a des cépages historiques comme le Pinot Noir, qui a longtemps été une référence à Genève. Mais il y a de bons Pinot Noirs à Genève, mais on n'a pas les meilleurs Pinot Noirs de Suisse. Les meilleurs Pinot Noirs de Suisse, c'est en Valais ou à Neuchâtel. Neuchâtel est une terre à Pinot Noir magnifique. Hein. J'en bois volontiers du Pinot Noir genevois, mais si vraiment je voulais me faire plaisir, il faut prendre un bon Pinot Noir neuchâtelois, c'est bien. Par contre, on a de très très bons Merlots.
Jacques, vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique. Et j'aimerais que pour nos auditeurs, vous expliquiez l'influence que ça a sur le vin et sur la vigne en particulier.
Oui. Alors l'influence que ça a, c'est que d'abord des cépages qui ont besoin de plus de soleil que les cépages traditionnels comme le chardonnay, le gamay ou le chasselas qu'on cultivait depuis très longtemps à Genève, eh bien, je pense qu'il y a 40 ans, si on avait planté du vionnier, on n'avait peut-être pas un été assez chaud ou un mois de septembre assez chaud pour que ces cépages viennent à maturité. Deuxième phénomène, c'est que certaines années, on vendange de plus en plus tôt. Ça a une influence importante. Mais en même temps, on reste une région où on peut avoir beaucoup d'humidité, beaucoup de brouillard si on a eu un été un peu plus frais et on doit vendanger plus tard. C'est pour ça que les chercheurs, les agronomes, se sont penchés sur cette idée d'avoir de nouveaux cépages qui pourraient résister plus facilement aux moisissures. Alors en général, par exemple, ce sont des cépages qu'on a marié des cépages qu'on avait ici à Genève, par exemple le Gamay, avec des cépages allemands comme le Rechensteiner, et on a biologiquement fabriqué ces nouveaux cépages. Et il y a des cépages allemands dans la vallée du Rhin où il y a beaucoup de brouillard. Ce sont des cépages qui naturellement par eux-mêmes se défendent bien contre la moisissure et l'humidité, qui ne sont pas en monocépage des trucs extraordinaires, mais on a pris la qualité biologique de ce vin-là, de ces cépages-là, pour les mélanger avec des cépages qu'on a ici et pour faire des vins de cette région. C'est vrai que quand je vais à l'Assemblée générale de la Fédération des confréries bachiques à Paris et que j'amène trois bouteilles de Gamaret, le Gamaret, les Français ne connaissent pas. Les Américains, ils ne connaissent pas. Les Italiens, ils ne connaissent pas. J'ai un succès fou avec mon Gamaret.
J'en suis certaine.
Et quand je dis qu'on fait ça ici à Genève, ils sont dingues. Voilà. Moi, quand je vais à l'étranger, je prends du Gamaret en rouge et du Chasselas en blanc. Et les gens sont complètement scotché en disant mais pourquoi on n'en trouve pas? Pourquoi on n'en trouve pas? Parce qu'on a une surface qui est finalement relativement petite. Et donc, une très grande partie est consommée à Genève. Les plus grands domaines qu'on a à Genève exportent maintenant en Suisse alémanique. On a beaucoup de vignerons, de vins qu'on trouve en Suisse alémanique. Ça, c'est bien. Mais on n'a pas des quantités qui font qu'on inonde le marché international. On reste quand même relativement modeste en surface.
C'est pour ça que nous restons quand même presque inconnus à l'étranger.
Presque inconnus.
Sauf des amoureux du vin, que nous sommes, vous et moi.
Voilà.
Moi, beaucoup plus modestement que vous, mais néanmoins. Mon cher Jacques, on arrive au terme de cette émission qui était formidable parce que vous avez su faire partager votre enthousiasme, votre immense connaissance du vin. C'est formidable. J'espère que cette émission va pousser beaucoup de gens qui aiment le vin à se cultiver davantage à votre contact et à celle de l'Académie du
D'accord,
CEP.
Volontiers.
Et que votre côté rassembleur fera qu'il y aura non plus 500 membres, mais encore beaucoup plus, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Alors merci beaucoup, merci à vous. Merci à Olivier Steinmetz qui monte cette émission et qui nous a enregistrés aujourd'hui. À bientôt.
Bonne journée,
à l'Académie.
Bientôt, très bientôt, oui, volontiers.
Au revoir mon cher Jacques.
Radio Cité Genève, Viviane Devitte.
La bouteille à moitié pleine.